Bienvenue à Je veux au ciné, votre émission du lundi à 14h sur Studio Zef. Aujourd'hui avec nous, on a... Tiens, on va changer. Antoine.
Bonjour.
Bonjour Antoine, qu'est-ce que
Bonjour
tu fais?
Sébastien.
Ça va?
Ça va et toi?
Et on a Mika avec nous.
Bonjour.
Moi je me présente, c'est Sébastien, je l'ai pas fait le coup d'avant, mais c'est pas grave. On va.
Ah, ben moi, attends, j'ai
vous
reçu
allez découvrir
des
des
gens
choses.
sur Twitter. Mais c'était qui cette magnifique voix? Pas un moment son nom a été prononcé. Ah, surprise à l'épisode 2.
Mais qui êtes-vous?
C'est pas très, très, très grave. Donc, Mickaël, tu vas nous faire une chronique, mais avant ça, j'ai un petit cadeau pour toi.
Joue pour ton grand frère, ça lui fera plaisir.
Je valide. Bon, alors, c'est à moi alors.
Bah oui.
Bon, alors, comme vous vous en doutez peut-être pas, je vais parler de musique de film. Et pour cette première chronique, je vais parler de ma première rencontre avec ce genre musical. Ça va être l'instant 36-15 ma vie. Alors, j'avais 13 ans. Et à l'époque, pour resituer le contexte, mon univers musical oscillait entre les cassettes audio de Joe Dassin de mes parents. Alors oui, il faut savoir que déjà à cette époque-là, j'étais en avance sur mon temps. Et les CD de Muse et de Radiohead que je gardais dans ma chambre. Et un jour, je me retrouve à regarder une des œuvres reconnues comme étant culte du cinéma, Il était une fois dans l'Ouest. Et là, ce fut le choc. Jamais une musique de film ne m'avait autant touché, peut-être même encore davantage que le film en lui-même. Et pourtant, les tonalités de musique d'Ennio Morricone, le compositeur, avaient de quoi décontenancer mes jeunes oreilles de mélomane. Mélodies sifflées, claquements de fouet, harmonica qui grince, pardon, etc., etc. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Le génie d'Ennio Morricone est là, pour chaque son, surtout naturel. Ennio Morricone dit que c'est musique. La seule mention de son nom au générique a souvent suffi à sauver la moindre série Z du désastre, car Ennio Morricone fait partie des rares compositeurs qui n'a jamais composé de mauvaise musique, et ce, même au kilomètre. Ça, c'est quand même assez fort. Il n'y a pas beaucoup qui peuvent s'en vanter.
Pour des mauvais films, des fois, mais...
Et pour des mauvais films, des fois, ouais. Mais revenons à Il était une fois dans l'Ouest. Sergio Leone, le réalisateur de ce chef-d'œuvre, considérait Morricone comme son meilleur scénariste. Et il avait pris l'habitude de préparer les musiques avant le tournage afin de les diffuser pendant le tournage, afin de favoriser l'immersion des acteurs dans le rôle, ce qui est plutôt une pratique assez singulière dans l'industrie cinématographique. Et force de constater que le résultat est payant car ce film jouit d'une symbiose quasi parfaite entre le son et l'image. Construit tel un opéra, chaque personnage a son propre thème qui le suivra tout au long du film. Commençons avec le thème récurrent, dont on a entendu un petit extrait un peu plus tôt, l'homme à l'harmonica. Ce motif de trois notes absolument iconique, parfait exemple de musique diégétique. Alors la musique diégétique, c'est une musique qui est présente physiquement dans la séquence, puisqu'en l'occurrence, elle est jouée par Charles Bronson. Très vite, ce motif grinçant débouche sur un ostinato de guitare électrique, personnifiant à la fois la quête de vengeance du personnage, mais aussi la cause qui va le conduire à défendre Jill de Frank et ses sbires.
C'est quoi un ostinato?
Un ostinato, en fait, c'est un accompagnement où il joue toujours la même chose.
D'accord.
Pardon.
Ah non, mais on n'est pas des spécialistes de la musique, hein.
D'un autre côté, exposé dès la première apparition de Claudia Cardinale dans le film, le thème de Jill et d'une beauté lyrique aussi inattendue qu'exceptionnelle, portée par la voix déchirante de la soprane Edda Del Orso, artiste lyrique fétiche du compositeur, qu'on a déjà pu entendre sur la bande-son de Le Bon, la Brute et le Truand. C'est la même voix. Ah. C'est un chant de lamentation accompagné de cordes d'une infinie douceur. Ce thème traduit aussi bien l'isolement de Jill que, après la perte de sa famille, que son rêve d'une nouvelle Amérique ou encore sa quête de vengeance. Mais tout cela ne prête guère la gaudriole, comme dirait notre ami Antoine. Et pour contrebalancer le côté tragique des deux personnages principaux, Ennio Morricone a introduit un thème plus léger, à la limite de l'humoristique, caractérisant le flegme du personnage de Cheyenne.
Il a fait claquer le banjo là.
Et c'est ça, Ennio Morricone. Des instruments qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ou qu'on n'attendait pas là. Il ose, lui, il ose. Et tantôt lyrique, tantôt expérimental. Ennio Morricone est un compositeur insaisissable qui a la maîtrise totale de son art. La force d'un compositeur de musique de film réside aussi dans sa capacité à savoir quand la musique est nécessaire et quand elle ne l'est pas. Il faut savoir que c'est Ennio Morricone qui a convaincu Sergio Leone de laisser la scène d'ouverture de ce film sans dialogue et surtout sans musique, ce qui a donné, ni plus ni moins, une scène culte de l'histoire du cinéma. 10 minutes avec juste le bruit du vent, des fétus de paille, une mouche et de l'eau.
Une éolienne, non, il n'y a pas le...
Non. Un moulin, parce qu'une éolienne dans le Far West, je ne suis pas sûr.
Non,
je
sais pas, un moulin en haut, c'est une éolienne.
Et Ennio Morricone, 90 ans, quand même. Hein.
Toutes ses dents, non.
Et toutes ses dents, je sais, on ne veut pas savoir. L'homme aux 500 BO, bon, chiffre certes invérifiable tant le compositeur a écrit et arrangé durant plus de ses 60 ans de carrière, a su plus que tout autre compositeur retranscrire la dimension à la fois sauvage et en même temps très humaine du western. Il a su redéfinir un genre où on pointe que les sifflements, la guitare électrique et l'harmonica ont intégré notre imaginaire du Far West, et ce pour le plus grand plaisir de nos oreilles.
Eh ben, je te remercie, Mika. Ouais. Et
Préfère Chaudasse. Chaudasse 1, la Chaudasse 2, la Chaudasse 3.
et on va enchaîner sur la musique de Il était une fois dans l'Ouest, l'homme à l'harmonica du Nick North Studio London Orchestra.
C'est de qui?
Nous revoilà. On va enchaîner avec la, l'interview de Antoine Rosbach, la suite et fin de cette interview du film Ceux qui travaillent, réalisateur du film évidemment, et c'est Romain, employé des Lobbies, qui l'interview aux Lobbies justement.
C'est là où le scénario et la mise en scène sont super importants, parce que le premier plan du film est une scène de douche. La douche, c'est vraiment le rapport charnel avec le corps du comédien. Et après, il devient salaud au travail, puis il devient perdu en tant qu'humain et surtout pris au piège. Et c'est vrai que c'est ces différentes facettes-là du personnage qui le font qu'on sait, on sait pas au fond si c'est un personnage positif ou pas, comme vous le dites.
Oui, c'est ça, et c'est important. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire le même film avec un personnage, on dit voilà, c'est un sociopathe en costume-cravate. Ça aurait été très facile. Mais c'est très rassurant, parce qu'alors on se dit voilà, il n'est pas comme nous.
Genre American Psycho avec Olivier.
C'est ça, voilà, c'est un monstre, c'est facile, parce qu'alors on se dit tous, on n'est pas comme lui, on n'a rien à voir avec lui. Et ce qui est très gênant, c'est que le travail qu'on a fait, c'est d'essayer de chercher ce que l'on avait en commun avec lui, malgré que, en fait, apparemment, de l'extérieur, si on résume ses actes, moi, j'ai rien à voir avec lui. J'ai pas l'âge de Franck. Je suis un artiste. Je m'implique pas dans le monde du commerce. Voilà. D'ailleurs, je me dédouane de. Enfin, voilà, c'est aussi une position qui est très très confortable. C'est-à-dire que je peux facilement dire que des gens comme lui sont responsables des problèmes du monde, vu que moi, je suis pas dedans. Et Olivier aussi. Voilà, c'est un personnage qui n'est pas comme nous. Et c'est ça qui nous intéressait. C'était de comprendre à quels endroits est-ce qu'on était un peu comme lui.
Et puis sur le milieu maritime, ces dernières années, on avait eu des films comme Tempête de Samuel Collardet. On avait eu Vent du Nord, on avait reçu le réalisateur il y a quelques années. Mais ouais, c'était à chaque fois du point de vue de l'ouvrier ou du pêcheur. Et là, on voit ce qu'il y a au-dessus de l'ouvrier, du pêcheur ou du transporteur. Et c'est vrai que c'est un... Moi, je ne savais pas du tout, comme cette histoire des Nike qui sont dans des caisses différentes. Enfin voilà, c'est ces trucs qu'on.
Ben oui, il y a aussi un truc, c'est que le cinéma sur le travail aussi, c'est un truc où c'est tout un genre, quoi. Et il y a quelque chose là-dedans qui je disais tout à l'heure qu'on s'était beaucoup posé la question de comment est-ce qu'on allait se positionner avec mon scénariste. Et c'est par rapport à ce genre-là, on a fait un vrai travail de se positionner consciemment, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui nous gêne, qui est que la représentation dominante. Est la suivante dans ces films-là. Et c'est un écueil qui est possible avec ce cinéma-là. Et j'espère que le cinéma social prendra une direction un peu plus fine dans l'avenir. C'est ce qu'on essaye de faire ici. Mais souvent, ces films nous représentent les choses de la manière suivante. On nous dit que le système écrase l'individu. Voilà. Le système qui est mauvais anéantit l'individu qui, au fond, est bon. Et on nous présente les schémas de domination au travail en disant, voilà, le problème de l'employé, c'est qu'il a un patron qui le force à faire ce qu'il ne veut pas. Il n'aime pas son travail et on le force et on le contraint. Donc, ce n'est pas faux. Voilà, c'est pas faux, c'est intéressant, mais ça a été dit beaucoup. Et je pense que ça pose un problème. Aussi, le plaisir que l'on a de voir cette représentation-là des choses, elle me pose aussi un problème parce que, voilà, une fois qu'on a dit ça, on dit quoi ? On dit qu'on est tous innocents, qu'on est tous victimes, et que l'on n'a qu'à attendre de se faire écrabouiller définitivement, une fois pour toutes, les bras baissés. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on aime entendre parce que ça nous dit que l'on n'est pas responsable. Et ce que j'ai observé, et ce qui était intéressant du fait que l'on avait décidé de commencer à parler plutôt des travailleurs en col blanc, parce que cette logique s'applique très bien aux travailleurs en col bleu, l'employé d'usine, etc., mais moins bien aux travailleurs en col blanc, l'employé de bureau, le cadre. Et ce qu'on a observé chez les hommes qu'on a rencontrés, c'est qu'ils avaient le sentiment d'être leur propre patron. Ils faisaient leurs propres horaires, ils géraient leur propre portefeuille. Ils avaient le sentiment d'être autonomes, d'être des chefs, faire partie de la classe dominante. Or, c'est faux, parce qu'ils restent des employés. Mais ce que ça signifiait, c'est qu'ils avaient, d'une certaine manière, devancé la demande de l'entreprise. Ça voulait dire qu'il fallait qu'ils intègrent le système et qu'ils l'alimentent. Il fallait, voilà, donc, et c'est pour ça que c'est important que le geste que commet Franck, personne ne lui a demandé de le commettre.
C'est même volontaire, là. Enfin, c'est lui qui a fait tout ça.
Et c'est un vrai criminel. Et ce serait trop. On peut difficilement dire, de manière univoque, que c'est à cause du système à 100%. Il a décidé de le faire. Il est responsable. Il est coupable. Et c'est intéressant parce que ça pose la question de comment est-ce que ces valeurs de l'entreprise, du travail, etc., finissent par coloniser l'esprit du personnage, nos esprits. Et quelle place est-ce qu'on laisse à tout ça dans nos vies ? Voilà, quels sont nos rêves, quelles sont nos ambitions ? Et ça questionne l'intériorité et aussi, ça dépeint un portrait du monde où, dans cette représentation dont je parlais, on dit le système est mauvais, l'individu est bon. Il y a un truc qui m'a toujours gêné, c'est qu'on ne nous dit pas comment une somme d'individus bons ont bien pu fabriquer un système mauvais. Voilà, d'où vient le mal ? Voilà. Et cette représentation-là, qui est celle du film, qui dit on est tous responsables, elle nous dit qu'en fait, la violence des systèmes qui effectivement nous oppressent vient de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous-mêmes fabriquons ces systèmes. C'est-à-dire que du coup, les vices, les maux, la violence de ce système peuvent être lus comme le reflet de notre propre humanité, de notre propre violence, peut-être nos propres désirs, nos propres peurs. Et c'est une vision que je trouve très intéressante parce qu'elle est compliquée, parce qu'elle nous implique dedans. On est alors impliqué dedans. On a un rôle à jouer dans le monde. Et alors c'est un peu culpabilisant comme vision des choses, mais il y a quelque chose dans cette représentation qui me rassure aussi énormément, parce qu'elle nous dit que l'on est responsable. Et quand on est responsable, ça veut dire que l'on a un impact sur le monde. Et ça veut aussi dire que l'on ne peut pas juste attendre notre destruction, on doit faire ce que l'on peut. Voilà, on doit endosser le maximum de responsabilité possible. Et c'est une vision des choses que je trouve beaucoup plus intéressante. Et plus tendu. Et voilà, et ça nous amène à faire un film qui, du coup, nous pose tous la question du rôle que l'on joue dans cette histoire.
Nous revoilà. Et donc, c'était Antoine Rosbach avec Romain pour le film Ceux qui travaillent. Et puis on va enchaîner sur une musique dont j'ignore encore le titre. Tiens, je vais mettre celle-là. I'm Forrest avec Forrest Gump de Alan Silvestri.
Quel accent.
Je suis sans voix. Thank you.
Donc nous revoilà, nous allons parler de films divers et variés, et puis je pense qu'on va commencer par... je vais commencer par le film Sibylle de Justine Triet, que j'ai regardé récemment, et qui c'est une réalisatrice qui a fait aussi le film Victoria avec comment s'appelle cette actrice,
Virginie Efira.
Virginie Efira, voilà. Dans les deux cas, c'est Virginie Efira. J'avais préféré vraiment Victoria à Sibylle. Je trouve que Sibylle, déjà, la musique m'agace très profondément parce qu'à des moments, il coupe la musique d'un coup sans prévenir, sans rien. C'est excessivement agaçant. J'ai horreur de ça. Et puis le sujet du film est d'un banal, d'un pénible. C'est une psy qui veut se relancer à écrire un roman. Et
elle s'inspire de ses patients ou je sais pas quoi. Là.
Ses romans, oui, elle s'inspire de cette patiente qui est une actrice. Elle mélange aussi un peu une partie de sa vie.
Adèle Exarchopoulos, je ne sais jamais son nom. C'est
de quoi
celle qui joue l'actrice. Joue l'actrice.
Oui, c'est une jeune actrice.
Adèle Exarchopoulos. Oui, voilà, j'arrive pas à retenir son nom.
Oui.
Norvégienne.
Mais le film est attendu, en fait. Tout ce qui s'y passe est attendu. Il n'y a pas vraiment de... moi je me suis ennuyé. Très franchement, je me suis ennuyé. J'ai vu quelques critiques, a priori c'est mitigé.
Donc déconseillé par l'équipe de Je vais au ciné.
Bah... Pour moi, personnellement, je trouve que c'est pas terrible. Je trouvais que Victoria était bien meilleure.
Moi, Victoria, j'avais pas aimé.
Bah, c'était pas extraordinaire.
Je l'avais vu après, là.
Mais c'est quand même mieux que celui-là. Celui-là, je trouve que c'est dans le même thème, quoi. Mais c'est du déjà vu. Et en plus, la réalisation a essayé d'être un peu innovant, mais je trouve ça mauvais.
Ouais.
C'est dommage. C'est dommage. John Wick 3. Parabellum. Ah, faut en parler de John Wick. Si on parle des trucs qui explosent et tout, faut parler de John Wick. John Wick 3, c'est la suite des deux premiers.
Ça se tient.
Ça se tient.
Ça se tient.
Il va lui arriver plein d'ennuis, comme d'habitude.
Attends. Regardons, c'est quoi ? C'est qui ? C'est qui ce garçon ?
John Wick, alors il a eu des petits problèmes dans sa vie. Alors, résumé des deux épisodes précédents.
Non, parce que c'est un super-héros.
Non, c'est un tueur à gages qui a pris sa retraite. Et puis il y a un jeune con avec deux de ses potes qui décide de venir lui piquer sa bagnole, lui défoncer sa gueule déjà, lui piquer sa bagnole et de tuer son chien.
Pourquoi pas ?
Offert par sa femme. Pourquoi le chien ? Et justement, ce qui fait rire beaucoup de gens, c'est qu'il tue plein de gens parce que dans le premier film, il dit c'est à cause du chien. Mais c'est le chien représente sa femme qu'il a perdue puisqu'elle elle lui a offert en prévision de sa mort, mais elle avait prévu lui offrir et c'est arrivé après sa mort. Donc finalement, il s'est attaché à ce chien après la mort de sa femme. Et donc, il est venu se venger puisqu'ils sont venus le chercher. Il est venu se venger. Il a fait plein de morts. C'est John Wick. Voilà.
C'est fou au cinéma le nombre de gens qui sont à la retraite et à qui il arrive des histoires de dingue.
Ah ouais, lui il arrive des
histoires. C'est un genre à part entière, le retraité super héros.
Et donc c'est un personnage qui finit par retourner dans ce monde un peu particulier qui est une sorte de pègre avec un hôtel. Pour les tueurs à gages ou pour une sorte de pègre. Enfin voilà, c'est un truc un peu spécial. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Et donc dans le 3, il continue dans sa lancée où il a de nouveaux problèmes.
Le sort s'acharne.
Mais il a non seulement de nouveaux problèmes, mais aussi il a été récupérer sa voiture. Bon, avec quelques difficultés, mais il a été chercher sa voiture. Parce qu'à un moment, il faut bien récupérer sa bagnole. Ou c'est dans le 2, mais bon, bref, il fait plein de choses. C'est la suite logique. Le scénario se tient pour un film d'action. Si on suit,
il y a un scénario, c'est déjà pas mal.
Moi, je trouve qu'il y a un scénario à John Wick. Il y a une idée derrière, c'est pas seulement de buter des gens
sur une échelle Michael Bay-esque. On se trouve,
c'est un peu mieux que Michael Bay quand même.
Ah ouais.
Ah quand même.
Oh putain, alors là, faut que je regarde.
Ah oui.
Là, tu l'as vendu.
Il y a un scénario, hein. C'est ça la
différence. Déjà, oui, voilà.
Respect.
Ouais, ouais.
Ouais, bon, ouais.
Le seul inconvénient de John Wick 3, si je me souviens bien, c'est qu'il y a beaucoup de scènes d'action et pas trop de scénarios. C'est un peu ce qui manque. Mais sinon, le reste est excellent. Enfin, alors, c'est dans la suite des autres. Quoi.
La question moi, qui me brûle les lèvres.
Vas-y.
Y aura-t-il un numéro 4?
Oui, ah. Je pense qu'il y en aura un numéro 4.
On peut regarder le 4, le 3 sans avoir vu les deux autres.
C'est mieux d'avoir
c'est
vu.
C'est mieux, ouais. Reste, ouais. Après, ça fait préquel, tu vois. J'ai vu la préquel, je l'ai vu avant.
Oui, ouais, oui mais tu vas pas comprendre.
T'intercales un John Wick pour ta rétrospective Transformers.
J'aime pas le ton que tu prends. C'est fou, ça. Je pense qu'il y a des choses à régler dans cette émission. Tout n'est pas encore au point.
Je passe à la suite ou quelqu'un a envie de parler d'un film?
Moi, j'ai vu un film, oui. Normandie 2019. C'est mon film de vacances.
Normandie 2019, c'est ouais. Quoi ce film?
C'est mon film d'été de vacances. Bon, ça dure un quart d'heure, c'est pas du grand cinéma, il n'y a pas beaucoup de moyens.
C'est un court-métrage.
Oui, j'ai un quart d'heure, je me doute.
Pas sorti en salle.
Bon, et alors? Est-ce que ça fait un chef-d'œuvre?
Et alors, ça parle de quoi? De,
bon, de la plage, on a fait un concours de roues. Voilà.
D'accord.
Voilà, j'ai perdu.
D'accord. Ok. Voilà. autre chose. On a perdu Mika.
Alors on peut avoir vu Normandie 2019 sans avoir vu les 2018 d'avant.
D'accord.
Hein, c'est un chiffre référence à l'année par l'épisode. Oui. Voilà.
Je comprends bien. Mika.
Ben en fait il y a un film que je n'ai pas encore vu mais qui me botte beaucoup mais je sais que toi tu l'as vu. C'est Séduis-moi si tu peux.
Ah oui.
Oh, je lance.
Je suis pas très client des comédies romantiques de base. Mais j'avais trouvé la bande-annonce très drôle. Et mais le temps m'a manqué. L'émission est arrivée trop vite.
Alors, c'est avec qui? C'est avec qui?
C'est avec. Séduis-moi si tu peux. C'est un film de Jonathan Levin.
Yes.
Avec comme acteurs principaux, j'ai oublié leur nom.
Charlize Theron. Oui. Et.
D'accord, je pensais que c'est un film français en fait.
Non, c'est et cette.
Seth Rogen.
Voilà,
ça me revient.
Alors, dans une comédie romantique, d'habitude, c'est l'homme qui a une place bien prépondérante, bien placée et tout. Dans Séduis-moi si tu peux, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est la présidente des États-Unis qui est séduite par un journaliste qui est droit dans ses bottes, globalement, qui préfère partir d'un journal parce qu'il ne peut plus faire ce qu'il a envie de faire. Et se débrouiller autrement. Et puis la rencontre comme ça un peu par hasard dans une soirée et puis il se retrouve
par hasard tu rencontres le président des États-Unis
dans une soirée et puis ils se sont connus très jeunes, c'est-à-dire que quand elle était ado, elle l'a gardé en tant que gamin quoi, enfin c'était une baby-sitter. Donc elle a été sa baby-sitter quand il était plus jeune et ils se retrouvent et de là naît une relation amoureuse où au départ ils sont comment dire, ils sont pas du même monde. Lui il est à la limite en survette, il est hyper mal habillé, il a une barbe, enfin bon, bref, c'est vraiment c'est pas le genre idéal, tu vois, c'est pas le mec en costard cravate qui a la classe avec sa mèche sur le côté. On en est très très loin. Et donc il y a le fait que ce soit une femme déjà et deuxièmement que ce soit un personnage public et un personnage public regardé par tout le monde, parce que la présidente des États-Unis tout le monde a les yeux braqués sur elle dès qu'elle
fait quelque chose. En plus Charlize Theron, toi. Ça aurait peut-être Angela Merkel, mais non, c'est Charlize Theron.
C'est Charlize Theron, quoi. C'est pas le même genre.
Elle est déjà présidente ou...
Elle est déjà présidente quand ils se rencontrent.
Je croyais qu'elle était en course.
Non. Où elle est en course, ça, peut-être.
Il me semble.
Peut-être, c'est par la suite, peut-être.
Peut-être par la suite, dans la bande-annonce, elle est en course.
Oui, bah alors, elle est en course.
Spoiler!
J'ai oublié cette partie-là. Mais c'est pas le plus important, en fait, si elle est en course. Mais en tout cas, elle le suit. Et au bout d'un moment, en fait, très vite, il devient. La raison pour laquelle il se rapproche d'elle, c'est qu'il devient celui qui écrit ses discours. Et pour essayer que ce soit un peu moins strict, tu vois, un peu plus marrant, un peu plus... Voilà, parce qu'il aime bien... Voilà, c'est quelqu'un d'un peu amusant.
C'est un bout en train.
Et dans ce film, ce qui est amusant, c'est le fait qu'elle a envie d'être autre chose que juste une femme... enfin une femme de façade, tu vois, elle a envie de s'amuser, elle a envie de boire une bière, elle a envie de
Une Guedin.
Elle a...
oui, mais elle Guedin que rien n'arrête.
Mais elle est présidente des États-Unis, donc elle peut pas se permettre un certain nombre de choses.
Et tu vois pas devant les caméras.
Et donc en fait au départ c'est un peu le personnage qu'elle met derrière, quoi. Même quand il y a une relation qui commence à se créer, c'est un peu l'homme de l'ombre qu'elle met pas en avant. Et puis au bout d'un moment, ça finit par savoir, comme tout ce qu'on cache. Et à ce moment-là, il faut qu'ils améliorent ce personnage-là. Enfin, faut qu'il soit présentable, ce personnage-là.
Parce que relooking.
Et pas forcément un relooking, mais même déjà dans la façon dont il se comporte, c'est très particulier. Il a pas de limite. Quand il se plaît pas dans quelque chose, il se barre. Enfin, voilà. Il peut faire des voilà. Il y a des moments, il y a des scènes où il va faire des gaffes, où il va faire. Voilà, où il n'est pas à sa place, en fait. Finalement, il n'est peut-être pas à sa place auprès de la présidente parce que c'est un monde très...
régi par des codes.
Régi par des règles qui ne correspondent pas forcément. Et pendant le film, on se pose la question si vraiment il est fait pour être avec elle et si elle ne va pas finalement le lourder ou... c'est l'intérêt du film, c'est de se dire cette relation qui se crée de deux personnages qui sont connus quand ils étaient plus jeunes et qui sont à des moments dans leur vie qui sont un peu compliqués, enfin pas les mêmes en fait finalement. Est-ce qu'ils peuvent se retrouver à un moment s'ils ont une relation amoureuse, est-ce qu'ils peuvent se retrouver même si en dehors de leur vie professionnelle ou de leur vie de paraître, est-ce qu'ils peuvent se retrouver. Et le film l'aborde plutôt bien, c'est un film qui marche. Même si je trouve qu'il y a des lenteurs à certains moments, mais voilà, c'est comme toutes les comédies romantiques.
Et alors sur une échelle du film romantique qui irait tout en haut à 4 mariages et un enterrement, et tout en bas à Transformer 1.
C'est une comédie romantique.
C'est une très mauvaise. C'est...
très mauvaise.
C'est très mauvaise.
Non, on est plus proche des 4 mariages et un enterrement que. D'accord. Ouais. Et puis le sujet est peu commun, c'est-à-dire qu'on a l'habitude que ce soit l'inverse. Et là, en l'occurrence, enfin, l'habitude, il y a des films qui font déjà ce diagnostic-là, mais là, c'est un film grand public, tu vois. C'est pas un petit film de second degré ou
de KPDP.
Ou à petit budget, tu vois. C'est pas un film de Sundance.
C'est sorti quand, ça?
C'est sorti au cinéma juste avant l'été, je crois.
D'accord.
Et là, c'est sorti en VOD.
Disponible sur
toutes les
plateformes.
Toutes les plateformes, hormis les mêmes que d'habitude, Netflix et Amazon, puisqu'ils n'ont pas le droit de les avoir tout de suite.
Ouais, 36 mois.
Voilà. Donc, eux, non. Mais sinon, vous pouvez les trouver ailleurs. Sinon, voilà. Vous attendez que ça arrive sur Netflix. Ça le peut arriver aussi.
Le cousin d'Amérique.
Dans 3 ans.
Voilà. Ou une autre plateforme qui pourrait arriver. On ne sait-on jamais. Est-ce qu'on enchaîne sur un autre film? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez?
On te suit, chef.
C'est notre leader spirituel.
D'accord.
C'est notre Kim Jong-il.
Allez, on en fait un petit dernier.
Pour la route.
On va en faire un bien qui va plaire à tout le monde. On va faire Pokémon Détective Pikachu.
Ah, c'était le but de l'émission.
Ah bah oui. De Rob Letterman, c'est un film.
Il paraît que c'est bien.
Ouais, c'est vachement bien. Alors moi, je suis pas fan de Pokémon, j'y connais strictement rien. Je me suis jamais intéressé à la question parce que je suis trop vieux pour ça. Voilà, je vous l'avoue devant vous, je suis trop vieux. J'ai raté cette génération-là. C'est la génération qui est arrivée après moi. Moi Pokémon, j'y connais pas grand-chose. Je connaissais Pikachu, je connaissais vaguement l'univers, mais de là à dire que je connais. Et Pokémon Détective Pikachu, c'est un détective. C'est tiré d'un jeu vidéo.
Ça se tient.
Il est détective parce qu'en fait, alors comment résumer ça? Il y a une ville où tous les Pokémon et leurs dresseurs sont globalement à égalité. C'est-à-dire que tout le monde a son tout le monde a un dresseur. Enfin, tous les Pokémon ont un dresseur et tous les dresseurs ont un Pokémon.
Peut-être expliquer le principe des Pokémon, non?
Alors, les Pokémon, c'est des espèces de monstres, plus ou
moins
gentils.
Des Pocket Monsters.
Voilà. Mais c'est plus ou moins gentil, ça dépend ce qui leur arrive et avec qui. Enfin, qui est leur. c'est une relation qui se crée entre, enfin c'est un peu comme un animal de compagnie finalement, là c'est un peu le cas dans cette ville là c'est un peu des animaux de compagnie qui ont des particularités, voilà, ils ont, pour Pikachu il fait de l'électricité, c'est un petit personnage jaune rigolo.
Il s'exprime qu'avec son prénom.
Voilà, mais comme beaucoup de Pokémon en fait.
Comme tous.
Oui, beaucoup, quasiment tous. Après, ce qui est intéressant, c'est que justement, son dresseur a disparu. Et c'est quelqu'un de sa famille, c'est un jeune de sa famille, je sais plus si c'est son neveu ou son, enfin, ou son neveu. Fils. Son neveu, je crois, ou son fils.
Le neveu à Pikachu. Ouais,
du dresseur.
C'est plus qu'une relation.
De Pikachu. Je vous dis du dresseur qui a disparu. Ah, et vous partez sur Pikachu. Vraiment.
C'est Mika, ça. Ouais. C'est l'influence néfaste de Mika.
Ah, mais j'ai rien fait, moi.
Et donc, ça doit être le neveu, ou je ne sais plus. Bref, quelqu'un de sa famille, un jeune de sa famille, qui décide de venir dans la capitale, qui vient dans son bureau et qui découvre ce Pokémon qui est tout seul. Et ils finissent par enquêter tous les deux sur la disparition de ce dresseur qui est un détective privé. Et ils enquêtent pour comprendre ce qui s'est passé, et a priori il devrait être mort. Parce qu'il y a une vidéo qui montre comme quoi il a fait un accident de voiture, il est mort, voilà, bref. Et l'intérêt de ce film, c'est une enquête finalement, c'est un film policier. Où il va essayer de trouver cet enquêteur avec ce Pokémon qui va lui parler en fait, parce qu'en fait très vite on se rend compte que ce Pokémon il parle, dès qu'il le rencontre il parle, et voilà, donc il cherche absolument à il suit son comment dire, il suit la piste qu'il a pour arriver à un dénouement qui est sympathique, avec un méchant bien identifié,
toi en tant qu'adulte,
t'as pas trop
ridicule,
c'est pas trop ridicule, c'est fait de toute façon pour les fans de l'univers, mais au-delà de ça c'est un peu comme j'avais bien aimé aussi le film Warhammer. Warcraft.
Voilà, on est plus dans le même univers.
Mais Warcraft, c'est pareil, ça peut passer pour des gens qui connaissent pas l'univers. Et bah, Pokémon Détective Pikachu aussi.
D'accord.
Si tu connais pas l'univers, enfin, connais pas bien l'univers, tu vas t'y retrouver. Parce qu'on n'essaye pas de t'imposer cet univers. C'est-à-dire que tu rentres dedans petit à petit, tu rentres par une enquête qui pourrait être dans n'importe quel univers de science-fiction, parce que là finalement c'est
une espèce de buddy movie.
Oui, si on veut. Mais là, c'est aussi abordable par les enfants, c'est abordable par tout le monde en fait.
Moi, j'avais...
C'est un peu un film familial sur une enquête.
J'avais vu la bande-annonce à l'époque où il était sorti et je trouvais qu'ils avaient réussi à bien modéliser en fait le personnage.
Oui.
Parce qu'en même temps, il y avait la bande-annonce de Sonic qui était
sortie.
Et là
c'était
ça terrible.
Ils vont le refaire pour Sonic.
Il paraît que c'est sympa comme film.
Oui, c'est un.
Enfin, voir en famille, ouais.
Oui, c'est un film familial, je pense. Ça passe que tu connaisses ou pas Pokémon. Ouais. Ça te passait une bonne soirée. T'as regardé ce film.
Un pizza movie, non?
Peut-être, ouais. Entre amis, ça peut être sympa. Un pizza movie entre amis, ça peut le faire, ouais. Je pense que ça peut le faire. Et puis, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Et se retrouver la semaine prochaine. Lundi, 14h, même lieu, même heure.
Eh bah, ok. Okay.
Présent.
Et puis je vous dis à bientôt sur l'antenne de Studio Zef.
On peut dire bonne nuit.
Non, à bientôt.
Ah, bientôt.
Il est pas 14h passé.
J'allais faire une sieste, moi, alors.
14h30.
J'allais faire une sieste.
Eh ben, va faire une sieste.
Je suis fatigué.